t'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, locataire oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de vous joindre à nous dans votre magazine Parole aux auditeurs. Dans une déclaration faite au mois d'août dernier, l'opposition parlementaire dénonce et condamne le blocage par le bureau de l'Assemblée nationale de l'examen du rapport de la CENI pour la Commission électorale nationale indépendante. L'opposition parlementaire dénonce également le blocus de l'audit et de la gestion de la CENI et l'examen des propositions de loi relatives aux réformes du système électoral. Selon vous, quel serait l'impact de ces réformes réclamées par plusieurs structures sur les processus électoraux de 2023? 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine réalisé et coordonné techniquement par Polydor Basunga, Pierrot et la Mégie. J'ai le réel plaisir de vous les présenter, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Participez à Parole aux auditeurs 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Plusieurs voix réclament la réforme nécessaire du processus électoral et plusieurs aussi estiment que ces réformes doivent passer par les institutions de la République, notamment le Parlement. Et au niveau du Parlement, une proposition de loi relative aux réformes du système électoral a été déposée et l'opposition parlementaire fustige le fait que cette proposition de loi ne soit jamais examinée. Alors, selon vous, quel pourrait être l'impact de ces réformes tant réclamées? Et nous en parlons avec M. Christophe Lutundula, député national. M. Lutundula, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Je me rappelle une fois où on se retrouvait avec vous dans ce magazine Parole aux auditeurs autour de la réforme qu'il faut aujourd'hui sur le processus électoral et particulièrement la loi électorale et la CENI. Où en sommes-nous aujourd'hui avec votre initiative?
Bien, depuis que je l'ai déposé, ça fait maintenant une année pratiquement un mois, et elle est toujours gelée au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Elle n'a jamais été soumise aux délibérations de la plénière, quoique ayant parcouru toutes les phases préliminaires, bureau d'études, gouvernement. Bon, j'attends toujours et je continue mon combat.
Alors, pour vous, le problème se trouverait à quel niveau? Y a-t-il une appréhension, ou soit estimez-vous que certaines personnes dans la classe politique ne trouvent pas opportun de pouvoir opérer ces réformes?
Bon, moi, je crois que le problème se trouve au niveau du bureau, particulièrement de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, parce que le Président, d'après le règlement intérieur, c'est président de l'Assemblée qui a la responsabilité de veiller à ce que l'Assemblée fonctionne conformément à la Constitution, à notre règlement intérieur et à toute loi relative au fonctionnement du Parlement. Et à ce niveau, je ne dois pas avoir la langue de bois. Je pense que le FCC, qui a la majorité écrasante à l'Assemblée nationale, ne s'est jamais montré favorable à la réforme. Ce n'est qu'un secret pour personne. Les déclarations publiques de partout dans ce sens-là. Et je me rends compte que finalement, c'est au niveau purement politique que le blocage se trouve. Parce que Madame la Présidente, elle est issue d'une famille politique. Je comprends, mais moi je pense que quand on dirige une assemblée délibérante, quand on est membre du bureau, l'effort que l'on demande à chacun, c'est de situer au-dessus, si vous voulez, de la mêlée et de faire en sorte que chaque parlementaire, en espèce chaque député, exerce son mandat totalement, que les droits qui sont les siens soient respectés et que son travail se passe sans handicap et surtout d'ordre politique. C'est ce qu'on demande. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu du militantisme au sein du bureau, ce qui n'est pas permis en l'espèce.
Mais alors, mais si nous devons entrer maintenant dans le fond du débat, pour vous, quels sont les éléments clés de ce réforme que vous avez proposé au travers ces textes juridiques?
Bon, je voudrais d'abord donner brièvement la finalité ou les finalités. Premièrement, garantir l'indépendance, la neutralité, l'impartialité de la CENI et lutter contre toute velléité de son instrumentalisation politicienne, comme on l'a déjà déploré. Deux, renforcer l'indépendance des membres de la CENI et les protéger contre les pressions de ceux qui les ont désignés. Trois, d'assurer tous les compétiteurs électoraux quant à la transparence du scrutin et leur offrir des chances égales. Quatre, assurer la transparence et l'efficacité de la gestion, tant des opérations électorales que de ressources de la CENI. Cinq, soumettre la gestion de la CENI à un contrôle interne et externe effectif, conformément à la Constitution, article 100, et à la loi organique portant son organisation et son fonctionnement, article 28, 42, 52. Six, circonscrire le pouvoir réglementaire des organes de la CENI et prévoir la responsabilité de ses gestionnaires en cas d'abus de pouvoir ou d'actes illégaux et délictuels. Et enfin, la dernière finalité, sauvegarder l'honneur et la dignité des membres de la CENI en leur évitant tout soupçon et toute tentative d'acte contraire à l'éthique de leur fonction. Voilà les finalités de la réforme. Et je voudrais souligner ici que toute proposition de loi, tout projet de loi constitue une base de discussion. Ce n'est pas une écriture sainte ou une parole d'évangile. C'est pour permettre aux parlementaires, en harmonie avec le peuple, avec les citoyens de la République, d'élaborer une loi qui puisse résoudre les problèmes qui sont posés. Donc, il faudra que psychologiquement qu'on sache que c'est une base de discussion. Alors, maintenant, les innovations, les principales innovations. D'abord, la désignation. La désignation ou la composition de la CENI. J'ai proposé ce qui suit. Désormais, ne sera éligible à la CENI que les Congolais aux compétences, à la probité morale et à l'indépendance d'esprit éprouvée et, c'est ça l'innovation, n'étant pas ou n'ayant pas été cadres nationaux ou provinciaux des organisations politiques ou des associations de la société civile affiliées ou alliées aux organisations politiques au cours des 5 années précédant leur désignation à la CENI. Ça, c'est la première innovation pour la composition. Deuxième innovation pour la composition, la parité hommes et femmes. J'ai prévu que la composition doit tenir compte de la parité hommes et femmes. Je crois que c'est la première fois qu'on a adopté la Constitution qu'une loi prévoit expressément cette obligation-là. Troisième innovation de taille, l'égalité entre composantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'exclus le fait que les quotas qui sont alloués à la société civile, à l'opposition, à la majorité, soient des quotas inégalitaires. En effet, actuellement, dans la loi actuelle, si je peux préciser, l'opposition désigne 4, la majorité 6, la société civile 3. Rien d'objectif ne peut justifier les répartitions parce que la CENI est un arbitre. Le premier arbitre électoral, c'est la CENI. Parce que la CENI, d'après la Constitution, l'article 211, est une institution d'appui à la démocratie, une institution technique, indépendante, neutre et impartiale. Donc, l'inégalité n'est pas admissible. On ne peut pas transposer à la CENI la configuration des assemblées délibérantes avec la conflictualité que cela comporte. C'est comme si on a envoyé à la CENI une majorité qui applique la politique de la majorité parlementaire au sein de la CENI. Donc, je prévois 5 membres pour la société civile, dont 2 issus de confessions religieuses, 2 issus des organisations de la société civile spécialisées en matière d'organisation et d'observation électorale et un délégué proposé par les organisations de droits de la femme. Et là, il faut noter pour la société civile. Je préconise clairement que les organisations concernées sont des organisations qui ont la personnalité juridique, une existence réelle sur le terrain et qui ont été ou qui sont impliquées dans le processus électoral, soit pour l'éducation électorale, l'organisation électorale, soit encore pour l'observation électorale. Donc, il ne s'agit pas de n'importe quelle organisation législative. La majorité, 5, l'opposition, 5. Et c'est très important aussi, ces citoyens et citoyennes congolais qui sont proposés ne représentent pas au sein de la CENI leurs composantes. Une fois désigné, le cordon ombilical est coupé et désormais, aucune composante ne pourra être autorisée à retirer ou à changer la personne qu'elle a proposée.
Mmh.
Et personne ne peut exercer, quand je dis personne, les composantes d'origine, toute autorité publique ne peut exercer des pressions sur les membres de la CENI pour les obliger à démissionner. Donc voilà. Pour la composition de la CENI, bon, il y a d'autres éléments.
On va revenir sur d'autres éléments. C'est très important, voilà. Ce que vous avez dit. Alors, on ouvre les standards pour écouter aussi nos auditeurs hein, autour de cette question de réforme qu'il faut apporter. Vous avez suivi le bref, ce que vous avez présenté en bref. On va revenir encore sur d'autres innovations. Le temps d'écouter les auditeurs. Alfred, vous êtes à Calémie. Merci de nous avoir rejoints dans ce débat. Bonjour, Alfred.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Casting.
On vous écoute, Alfred.
Merci beaucoup. Moi, je pense que les réformes électorales ont un impact à surmonter dans la mesure où les élections ne sont pas d'abord considérables à une nomination, encore moins à un consensus. Par contre, elles sont à considérer à une volonté et libre choix du peuple. D'où les réformes sont nécessaires. Et pour ne pas tomber dans les coups des précédentes élections du 30 décembre 2018, où on a assisté à des complaisances et fantaisies. Donc nous voulons les élections libres, transparentes et apaisées pour le bien-être de la population. Et s'il faut aller aussi plus loin sur cette réforme peut aussi porter sur la loi électorale en ce qui concerne l'éligibilité, parce qu'aujourd'hui nous faisons face à des défis majeurs où nous rencontrons avec certains députés qui sont incompétents. Et par exemple, sur le point d'élaborer des rapports de la vie économique, politique, administrative et porter des solutions sur la population. Voilà un peu ma contribution.
Merci beaucoup, Alfred. Non seulement vous estimez que c'est très intéressant le processus, la réforme de la CENI, parce qu'il faut qu'on arrive vraiment à respecter les libres choix. Si la CENI ne fonctionne pas d'une manière libre, aussi les choix ne seront pas libres. Mais vous allez aussi plus loin. En évoquant aussi la question de la loi électorale, et là, vous parlez des conditions d'éligibilité. Vous estimez qu'il faut encore travailler là-dessus pour qu'on puisse avoir des élus qui sont vraiment compétents. Merci beaucoup, Alfred. François, vous êtes à Ilebo, au Kasaï, dans la province du Kasaï. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Kiro Elamiji. Bonjour, Polydor. Salut à Christophe Lutundu, là, pas là. Merci beaucoup pour votre... J'ai pris des activités de PA parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas émis. Nous sommes très contents. Concernant la déclaration faite et signée par l'opposition parlementaire, notamment AMK, Allié, MLC, ADEN et MSG7, les trois groupes parlementaires de l'opposition parlementaire disent ne plus tolérer toute manœuvre tendant à saboter la souveraineté du peuple et les intérêts supérieurs de la nation. Selon eux, ils appellent Mme Jeanine Mabunda à renvoyer les procès verbaux controversants de la désignation de Ronsard Malonda comme président de la centrale électorale aux confessions religieuses pour reprise des procédures. À mon humble avis, l'impact de ces réformes sur le processus électoral de 2023 crédibilisera la République du Congo sur l'échiquier international en matière électorale apaisée. L'air est compliqué pour la préparation des élections de 2023. Il y a nécessité de réformer la CENI, et cela par la volonté politique des acteurs politiques et de la société civile pour l'intérêt du peuple, et éviter les erreurs de 2006, 2011 et 2018, afin de certification des résultats des élections à venir par tous. L'audit de la gestion précédente de Nanga ne sert à rien, car la coalition actuelle est un souci. Donc, vous comprendrez dans mon interlocution que moi, je ne sais pas le fait qu'on puisse encore auditer la gestion de Nanga. L'air est à la réorganisation de la CENI pour un avenir meilleur de 2023.
Merci beaucoup, François. Vous estimez que l'audit de la CENI, c'est déjà passé. Il faut d'abord plus se concentrer sur la question de la réforme. Merci beaucoup. Alors, on revient à vous, Monsieur Christophe Letourneau, de la députée nationale. Alors, les deux auditeurs estiment qu'il faut arriver vraiment à cette question de réforme. Il faut que ça soit crédible. Mais pourquoi y a-t-il ce décalage de conception entre la classe politique et peut-être la population qui estime qu'il faut de réforme? On le voit aujourd'hui, les débats, il est très, très animé, il y a trop d'initiatives au-dessus de la question de la réforme. Alors, y a-t-il question d'avoir un perdant ou un gagnant dans cette question pour que les perdants disent qu'on ne peut pas examiner cette proposition de loi et procéder à la réforme de la CENI?
Bon, écoutez, je me réjouis d'abord de voir que jusque-là, les intervenants sont d'accord avec moi et avec nous, l'opposition, qu'il faut réformer la CENI. Je crois que c'est très clair là-dessus, d'autant plus que l'équipe sortante, l'équipe du Corneille Nangaa, qui a déposé son rapport de gestion du processus électoral et de gestion de la CENI depuis l'année dernière, a préconisé aussi la réforme de la CENI. Donc sur ce point-là, moi je crois pas qu'il y a des discussions seulement, il y en a qui n'en veulent pas, tout simplement parce que malheureusement, la CENI a été déviée de sa mission originelle pour devenir les lieux, malheureusement, le terrain, le champ de bataille pour la conquête et la conservation du pouvoir. De sorte que ceux qui sont aux affaires pensent que, bon, dès qu'on a la maîtrise de la CENI, on est rassuré de revenir au pouvoir, de garder le pouvoir. Et c'est ça le combat particulièrement. Parce que ce n'est un secret pour personne, mais ceux qui refusent, à savoir l'FCC. L'FCC a gagné comme il a gagné. Bon, on ne va pas remuer le couteau dans la plaie, et l'FCC considère que, bon, si on va vers une CENI véritablement indépendante, neutre et impartiale, vers des élections transparentes, à égalité de chances, il ne pourra pas rééditer son exploit de plus de mémoire aujourd'hui. C'est ça, là, la vérité. Alors, pour l'audit, je voudrais quand même dire et préciser, Pierrot, que l'audit est une exigence, pas de l'opposition comme seule, mais c'est une exigence légale. L'article 52 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI stipule clairement qu'à l'issue du processus électoral, la Cour de compte effectue un audit de la CENI, dont il dépose les conclusions à l'Assemblée nationale avec copie au président de la République et au gouvernement. Donc c'est une exigence légale. Et pour terminer avec ce point-là, c'est ce que nous avons toujours fait après chaque processus électoral. On nous dépose des rapports, on examine les rapports, on a l'audit, malheureusement, je crois qu'à un moment donné, avec le dictateur Mounouda, c'est pas évident qu'on a fait l'audit. Et à ce moment-là, on tire des leçons pour modifier, ajuster la loi, à la fois la loi électorale et la loi pour organiser le fonctionnement de la CENI. Voilà la réponse que je peux donner.
Voilà.
Et si vous voulez, on peut encore ajouter un mot sur la réforme que nous proposons.
Voilà, on va revenir parce qu'il y a, vous avez parlé tout à l'heure sur la composition de la CENI, on va revenir dans votre proposition sur d'autres innovations en dehors de la composition, mais on aborde aussi hein, au même moment ces considérations politiques des uns et des autres qui peut-être estiment qu'on ne peut pas arriver à réformer parce que c'est une question d'intérêt politique. On revient à vous, le temps d'écouter Maître Jean-Claude Mupompa, vous êtes à Kananga au Kasaï Central, merci de nous avoir rejoints dans ce débat, bonjour.
Bonjour, cher Pierrot. Bonjour à l'invité, l'honorable Christophe.
Voilà. Alors, vous suivez hein, les débats aujourd'hui. Il y a plusieurs initiatives, plusieurs voix qui s'élèvent qu'il faut carrément réformer la CENI. L'honorable Christophe Letourneau qui a déposé la proposition de loi au niveau du Parlement, ça n'a jamais été examiné depuis une année. Alors, pour vous, quelle pourrait être la démarche aujourd'hui au niveau de la classe politique pour qu'on arrive quand même à cette réforme? Parce qu'on estime que si on réforme, on peut avoir un processus électoral apaisé d'ici 2023.
Merci beaucoup, cher Pierrot. Je crois que les considérations de l'honorable Letourneau, bien que je n'ai pas accédé à sa proposition de loi, mais je crois que déjà, comme il l'a dit, l'article 52 et bien d'autres articles de la loi donnent, c'est des exigences légales qui permettent à ce qu'on fasse ce contrôle-là, non pas pour, non pas seulement pour voir ce qui est fait, mais aussi pour arriver à crédibiliser le processus. Depuis plus de trois cycles, nous allons toujours de contestation en contestation. Ça signifie que quelque chose qui marche pas. Et si on fait cet audit et qu'on arrive à faire des réformes, je crois qu'on peut arriver à un processus très apaisé, très crédible, qui peut permettre à mettre tout le monde en confiance.
Alors, ben, vous avez dit, il faut qu'on arrive à crédibiliser les processus, mais il faut aussi réformer la CENI, parce que les débats, c'est exactement sur la question de la réforme de la CENI. L'honorable Tundula a fait vraiment beaucoup de propositions, surtout en créant les conditions d'égalité pour éviter que la CENI ne soit pas composée en termes de majorité, opposition, qui est une équipe qui est majoritaire. Mais alors, il y a aussi un problème de la volonté politique réelle. Pensez-vous aujourd'hui, maître Jean-Claude, que la classe politique aujourd'hui, que ce soit la FCC qui s'oppose entre guillemets à ces différentes démarches, pensez-vous qu'ils peuvent arriver avant 2023 à s'impliquer vraiment dans cette logique des réformes pour qu'on ait un processus apaisé?
Je crois que l'État congolais n'appartient pas à une seule famille politique. Aujourd'hui, tous les Congolais doivent se mobiliser comme un seul homme pour pousser à ce que cette réforme puisse avoir lieu. Piro, vous savez bien que le contexte a effectivement changé. Hier, la CENI qui a été créée l'a été au nom de... C'était une institution d'appui à la démocratie. Après que les belligérants aient décidé de mettre fin à la guerre, ils ont mis cette institution-là pour pouvoir organiser des élections. Mais le contexte ayant évolué, il y a réellement besoin de pouvoir pousser les choses pour que la réforme puisse avoir effectivement lieu. Bien que le FCC ne soit pas prêt, mais je crois que le peuple congolais doit continuer à pousser et obtenir cette réforme-là pour que nous puissions arriver réellement à une commission électorale impartiale, neutre et indépendante.
Et quand vous dites que la population doit pousser, cela veut dire qu'il doit y avoir des efforts conjugués, des pressions et d'initiatives pour qu'on y arrive.
Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. C'est légal, oui.
Voilà, c'est légal. Mais avant peut-être de vous libérer, vous avez suivi dernièrement, beaucoup de gens estiment que les réformes doivent se passer au niveau des institutions. C'est normal, au niveau du Parlement. Et l'honorable Lutundula, qui a déposé la proposition de loi, s'est plaint qu'elle n'est pas examinée. Mais quel devait être aujourd'hui le travail qui devait être fait au sein du Parlement pour arriver vraiment à amorcer, à aborder cette question de réforme, maître Jean-Claude?
Je crois que le travail, c'est d'abord la prise de conscience de nos élus. Ils sont là de la volonté du peuple qui les a mandatés. Ils doivent transcender leurs intérêts politiques immédiats et comprendre que le peuple congolais aspire à des élections crédibles et ça passe par le pouvoir que leur a délégué.
Merci beaucoup, maître Jean-Claude. Ça, c'est très intéressant. Vous avez dit, il faut que les élus puissent avoir la conscience, la prise de conscience, de comprendre qu'ils doivent transcender les intérêts politiques et pouvoir répondre vraiment aux besoins. Et nous aussi, notre devoir, c'est exactement de revenir là-dessus pour qu'on aille enfin, qu'on arrive enfin à avoir un processus électoral crédible. Jean-Cy, vous êtes à Kikwit. Merci de nous avoir rejoints dans cet échange. Bonjour, Jean-Cy.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tous les amis auditeurs de la Radio Capi.
On vous écoute, quel est votre point de vue autour de cette question?
Oui, ma point de vue reste toujours identique, parce que je pense qu'on ne peut pas parler de la réforme sans parler de l'audit de la CENI. Messieurs les journalistes, on ne peut pas réellement réussir dans la vie si on ne peut pas se référer au passé. Comment vous pouvez parler des réformes de la CENI sans toutefois parler de l'audit de la CENI? Il faut qu'il y ait l'audit de la CENI, savoir ce qui est réellement passé dans la CENI et ce qui est réellement passé dans la CENI, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qu'il faut faire pour que non, demain qu'on puisse avoir des élections crédibles, qu'on puisse avoir des institutions crédibles et des institutions même légitimes. Parce qu'aujourd'hui on parle des institutions non légitimes à travers tout ce qu'on a vu avec les élections non crédibles en 2018, pas même en 2018, toutes les élections qu'on a constatées en RDC, il n'y a pas d'élections crédibles. Il faut qu'il y ait des réformes. Je soutiens des réformes, mais avant des réformes, il faut qu'il y ait une audit de la CENI pour savoir réellement qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qu'on doit réellement faire à la prochaine. Parce que s'il y a des réformes, s'il y a l'audit de la CENI, nous aurons des élections crédibles et nous aurons même des institutions crédibles et des institutions même légitimes. Parce qu'on ne peut pas rester toujours parler des institutions, des réformes, sans toutefois savoir qu'est-ce qui n'a pas marché aux précédentes élections et qu'est-ce qu'on doit faire pour que non, demain qu'on puisse avoir des élections crédibles et des institutions légitimes.
Merci beaucoup, Jean-Cy, hein, vous l'avez dit, l'audit c'est très intéressant, on ne peut pas passer déjà à pouvoir avoir une nouvelle CENI qui doit prendre en charge le prochain procès électoral sans pouvoir revenir sur l'audit et la réforme de la CENI. Vous avez insisté beaucoup sur la question de la crédibilité de résultats des élections, mais aussi de la légitimité bien sûr des institutions. On sait, dans les préambules de notre constitution, on prévoit, on estime qu'il faut mettre fin à la question de la légitimité des institutions, le débat éternel. Mais est-ce que le débat a été déjà, et les bases ont été mal posées, comme le disait Maître Jean-Claude tout à l'heure, que c'était quelque chose qui venait de la volonté de belligérants. Est-ce que la base déjà a été biaisée? On va revenir à notre invité tout à l'heure. 081-890-4969, 081-890-4969. C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine. Je rappelle encore qu'il se consacre aujourd'hui sur la question de la réforme de la CENI. Et nous en parlons avec le député national Christophe Lutundula.
Les Nations Unies célèbrent ses 75 ans d'existence. 75 ans d'efforts inlassables pour la réalisation d'un monde meilleur. En 2020, quelle évaluation les peuples du monde peuvent faire pour l'idéal de l'ONU? Quelle est la contribution des acteurs politiques, économiques et culturels congolais à la construction de cette œuvre humaine? La Radio de la Paix vous propose des émissions spéciales à l'occasion des 75 ans des Nations Unies. Retrouvez-nous sur nos antennes, ensemble avec la famille de l'ONU.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Nous revenons à vous, Monsieur Christophe Lutundula. Et vous avez suivi encore Maître Jean-Claude Mupompa. Il insiste sur la question de qu'il faut adapter parce que les choses ont changé. Il évoque l'esprit du constituant quand on venait de cette question des belligérants. Est-ce qu'on peut dire, bien sûr, avant d'aborder une autre vague d'innovation que vous proposez dans la loi, est-ce qu'on peut dire, si on doit faire un pas en arrière, que la base, elle était biaisée avec cette composition de la CENI, selon, comme lui venait de dire, par exemple, l'esprit des belligérants?
Écoutez, d'abord, je suis totalement d'accord avec notre compatriote Jean-Claude Mupompa. Tout ce qu'il a dit, comme tout ce qu'a dit notre ami de Kikwit, je suis dans cette ligne de pensée, et c'est pour cela qu'on fait la réforme. Oui, effectivement, au sorti de Sun City, moi-même, je suis parmi les participants de Sun City, il y a eu une empreinte assez forte de la configuration politique de Sun City et des rapports de force dans la mise en place des institutions de gestion de l'État en général. C'est pour ça que vous trouvez la formule à plus 4 et ainsi de suite, et à de la CENI. Donc là, effectivement, Jean-Claude ne prend pas raison, et c'est pour cela que nous proposons la réforme.
Oui. Alors, vous l'avez dit, c'est pour ça qu'il faut proposer la réforme. Alors maintenant, vous aviez montré tout à l'heure là la composition de la CENI. Quels sont les autres éléments d'innovation que vous estimez qui peuvent permettre à ce que, parce que la finalité, vous l'avez dit, c'est un processus qui soit crédible?
Bon, je reviens. Ah, merci beaucoup. Pour la composition, pour terminer, la procédure, parce qu'on a parlé de cas Malonda. Voilà ce que nous proposons aujourd'hui. Donc, selon le calendrier adopté par l'Assemblée plénière de l'Assemblée nationale, l'Assemblée plénière, sous proposition de la conférence des présidents, au regard du prescrit de la loi sur la CENI, les composantes concernées se réunissent pour désigner les membres de la CENI conformément à l'article 10 de la loi. Je viens de vous expliquer l'article 10. Alors, la deuxième étape, les procès-verbaux de désignation des membres de la CENI et les pièces y afférentes sont transmis par les composantes à l'Assemblée nationale pour l'entérinement. À cet effet, une commission paritaire majorité-opposition, qui s'est prévue à l'article 49 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, est constituée par la première pour examiner les dossiers individuels des personnes désignées au regard des conditions et critères prescrits par la loi et, le cas échéant, les auditionner en présence des délégués de leurs composantes. Mmh. En fait, on s'est inspiré, Pierrot, vous le savez, de ce qui se passe au Sénat américain. Quand on propose quelqu'un à la nomination, ben, ce qui passe par le tamis,
oui,
de la commission sénatoriale. Donc là, nous devons examiner. On a proposé tel, qui est-il, quels sont ses antécédents, est-ce que lui-même comprend ce que la CENI, le rôle de la CENI et le travail qu'il est appelé à faire, et cela, on le ferait en présence de la délégation de la composante. Et c'est après ce processus-là, les conclusions de la commission sont soumises à l'approbation de l'Assemblée plénière et de l'Assemblée nationale. En cas de non-entérinement de la désignation des membres de la CENI, le bureau de l'Assemblée nationale demande à la composante concernée de désigner une autre personne. Mmh. Cette nouvelle désignation est soumise à la même procédure d'entérinement que ci-dessous. Voilà, c'est une innovation de taille qui nous permet de répondre à une préoccupation d'un auditeur qui se soucie du fait que, d'après lui, on prend n'importe qui et on met à la CENI et on le fait élire aussi à l'Assemblée nationale. Après cela, je voudrais donner une petite précision.
Oui.
On parle du débat au sein des institutions. C'est un faux problème, Pierrot, parce qu'il y a une constitution qui dispose clairement que le rôle de légiférer appartient à l'Assemblée nationale et que la promulgation, c'est le président.
Mmh.
La CENI, les élections, c'est régi par des lois. Est-ce que vous pensez qu'on peut à modifier ces lois-là sans passer par les institutions? Est-ce que c'est concevable? Donc, c'est un faux débat. La phase actuelle, c'est ce que j'ai fait systématiquement, notamment à travers une émission, merci beaucoup, de la radio au Papi. Je note les observations de Congolais.
Uh-huh.
Et on prépare les débats au sein des institutions. Donc, c'est un faux problème. Et par rapport à Sapiro, comment arriverons-nous à prendre les idées, les propositions, les différentes sensibilités de ceux qui ne sont pas institutionnels, la société civile, les acteurs politiques non institutionnels, les corps intermédiaires, s'il n'y a pas de mécanisme de discussion, d'échange avec eux? C'est là tout le problème. Donc, cette histoire de dire non, les débats à l'intérieur des institutions, c'est un problème qui ne se pose pas.
Alors, vous estimez aujourd'hui que toutes les initiatives, aujourd'hui, que ce soit les 13, l'équipe des 13 qui a aussi amorcé certains contacts, il y a eu professeur Bob Kabamba avec le forum qui n'a pas pu aboutir. Il y a quand même des voix qui s'élèvent. Dernièrement, on voit les confessions religieuses qui sont dans les discussions en interne sur la question de réforme. Vous estimez qu'il faut qu'on ait vraiment ces débats ouverts et qui doit aboutir maintenant à la formalisation au sein du Parlement, par exemple, avec la loi?
Oui, parce que la question des élections est si importante, déterminante, vitale pour l'avenir du pays et le destin de chacun, qu'il ne convient pas, dans une république démocratique, d'en réserver le débat aux seuls acteurs institutionnels. Ce n'est pas la République. La République, à mon avis, c'est le royaume, je dis bien le royaume des citoyens. Et on dit toujours que la loi n'est pas désincarnée. La loi obéit à un principe cardinal, salus populi, suprema lex. L'intérêt du peuple est la loi suprême. Donc, il faut parler avec le peuple. A fortiori, nous qui sommes des mandataires, même si notre mandat n'est pas impératif, le député, le sénateur, nous n'avons pas. Nous ne travaillons pas dans les bureaux climatisés. Nos bureaux doivent se trouver dans la rue, dans les avenues, pour parler avec les citoyens. Et là, j'allais terminer sur ce point, Pierrot, en disant que l'appropriation d'une réforme, d'une politique publique, par le plus grand nombre de citoyens, c'est le gage de la réussite et de l'efficacité dans un régime démocratique.
Merci. On revient à vous. Il y a encore les auditeurs qui sont sur notre standard, comme Éminent Sani, qui nous appelle de Bukavu dans le Sud Kivu. Éminent Sani, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour, c'est Emina Wandassan depuis la ville de Bukavu, le président urbain de, du mouvement Rien sans le peuple.
Voilà.
À mon avis, mon avis, monsieur le journaliste, je salue d'abord tous les auditeurs à travers le monde qui sont en train de me suivre pour le climat. La CENI, comme le nom l'indique, doit rester à tout prix en dehors de toute forme de dépendance. Comme le veut bien l'opposition parlementaire et bien d'autres structures, l'image qu'évoque notre CENI est loin de cette optique. Les animateurs de cette structure électorale doivent savoir que tout ce que la RDC est en train de traverser en ce moment comme souffrance, défi et autres, et aussi sur leur tête, car le système électoral en place ne permet pas le souverain primaire de s'exprimer valablement. La solution aux misères que connaît le peuple congolais est entre les mains de la CENI, qui au lieu de respecter la volonté de la population, elle procède aux nominations selon les quotas dont le peuple congolais est victime. Les parlementaires doivent se mettre au lieu et place de ce peuple qui souffre depuis plusieurs années, au lieu de satisfaire leurs intérêts égoïstes en répondant aux injonctions de leur camp politique qui crucifie le Congo. La réforme de la CENI revêt un caractère urgent et impératif pour sauver les prochaines échéances électorales.
Merci beaucoup, Emina Mwamba Hassani. Vous êtes à Bukavu. Vous avez dit que la CENI doit rester à tout prix indépendante. Mais il y a aussi la question de la responsabilité. Parce que vous estimez que s'il y a des problèmes aujourd'hui, c'est que les membres, les animateurs de la CENI doivent se sentir aussi responsables. Hein, parce que la suite du processus électoral, c'est aussi sur leur responsabilité. Et pour vous, c'est impératif et c'est urgent. La réforme de la CENI. Merci beaucoup, parce que vous estimez que la suite des événements est liée à ça. Alors, Jérémy, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Jérémy.
Oui, bonjour, M. Pierrot. Bonjour également à l'invité.
Alors, on vous écoute, Jérémy.
Je pense que je voudrais juste revenir sur ce problème qui concerne, disons, la CENI. Je pense que lorsqu'il y a des réformes qu'on est en train de déposer, je pense que l'Assemblée, il appartient à l'Assemblée nationale d'écouter donc les revendications, n'est-ce pas, si l'opposition a formulé son cahier des charges et que ces revendications sont fondées, il faudrait à tout prix que l'Assemblée prenne à bras le corps cette situation et réagisse le plus rapidement possible. Je pense que lorsqu'on est président de l'Assemblée, il n'est pas dit qu'on doit répondre selon l'appartenance politique. On doit agir en tant que femme ou homme d'État. Je pense qu'il revient d'écouter les revendications si il s'avérait que l'opposition a déposé son cahier de charges en bonne et due forme et qu'il fallait, n'est-ce pas, que la CENI soit réformée, mais cela est un geste sanitaire. Parce que si la CENI est réformée, je pense qu'on peut éviter les contentieux électoraux qui arrivent souvent, voire même les R et ainsi de suite. Tout ça, ça peut nous éviter des problèmes. Parce que tout dépend de la crédibilité, n'est-ce pas, des élections. Si tout est bien parti au départ, je pense que les choses peuvent bien partir.
Alors,
pourquoi
Jérémy,
bloquer les revendications?
Oui. Jérémy, vous avez suivi notre invité, le député Christophe Lutundula, il a dit en début de l'émission qu'il ne faut pas que la présidente de l'Assemblée nationale se comporte comme une partisane. Cela veut dire qu'elle doit se mettre au-dessus de la mêlée, et c'est ce que vous avez dit, elle ne peut pas se comporter en partisane, il faut que la loi soit examinée. Mais estimez-vous aujourd'hui que dans la configuration actuelle de cette majorité écrasante du FCC, il est possible qu'ils acceptent aujourd'hui de pouvoir examiner cette loi et de réformer la CENI, ou quels sont d'autres mécanismes aujourd'hui qui peuvent amener quand même ces débats à l'Assemblée nationale pour qu'il y ait cette réforme de la CENI tant réclamée, Jérémy?
Oui, c'est ce que nous disons, parce que les réformes sont évidentes au jour d'aujourd'hui. Il revient d'écouter les revendications des uns et des autres, ce que nous disons, pour qu'on arrive un peu à former une histoire. On a vu avec les deux cycles électoraux, ça n'a pas produit de bons fruits. Il y a des contentieux, un contentieux, maintenant, c'est le moment de saisir la balle au bon pour, n'est-ce pas, mettre les toilettages possibles et placer des gens crédibles à la place qu'il faut. Parce que nous ne voulons pas qu'il y ait, c'est-à-dire les gens se sentent laissés lorsqu'il y a des résultats, mais nous voudrions que réellement, au sein de l'Assemblée nationale, qu'il y ait quand même des gens qui sont compris par leurs revendications pour que les choses soient définies clairement. Sinon, on va rentrer dans l'arbitraire. On va regretter encore et il n'y aura pas du crédit aux élections. Voilà, c'est ce que nous devons beaucoup reconnaître. Parce que la présidente de l'Assemblée doit connaître qu'il n'appartient pas au camp de FCC lorsqu'il est au perchoir, mais il appartient à la nation congolaise. Et il doit agir en tant que responsable. Merci. Elle engage directement la nation congolaise.
Merci beaucoup, Jérémy de Lubumbashi. Et vous avez interpellé vraiment la présidente de l'Assemblée nationale. On revient à vous, monsieur Christophe Lutundula. Mais alors, quels sont les mécanismes qui sont prévus au niveau de la loi, que ce soit le règlement intérieur, que ce soit la constitution, pour vous permettre, quand vous déposez une proposition de loi comme ça, et qu'elle n'est pas examinée, qu'elle n'est pas inscrite à l'ordre du jour, avez-vous d'autres mécanismes de revendication ou de faire entendre votre loi pour amener vraiment le bureau de l'Assemblée nationale à inscrire cette question à l'ordre du jour?
Bon, formellement, je vais être très bref parce qu'il faut aller dans les réformes. Formellement, il n'y a pas un mécanisme qui est prévu, écrit. Mais moi, j'appartiens à un groupe parlementaire, j'appartiens à la famille politique de l'opposition. Je compte d'abord sur le soutien de ma famille politique, M6G7, et de l'opposition, de trois groupes parlementaires de l'opposition. Mmh. Et l'autre mécanisme le plus fort, c'est le peuple. Et je me réjouis de voir que tous les intervenants disent la même chose que moi. Et il y en a un qui a même parlé du peuple. Il appartient à chaque Congolais de prendre conscience de l'enjeu, mmh, et de se mobiliser pour faire triompher l'intérêt général. Il y a une majorité à l'Assemblée, mais comme l'a dit le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, quelle qu'elle était la majorité, même 100%, il ne lui est pas autorisé d'aller à l'encontre des principes et des valeurs de la République. Et c'est là, Pierrot, l'interpellation que j'adresse à chacun là où il est. Est-ce que la situation actuelle pour les élections, la manière dont les élections sont organisées, est-ce que c'est ça que nous devons avoir pour notre pays? C'est ça la réponse.
Parce que vous avez, vous posez cette question, est-ce que c'est ça ce qu'on doit avoir? Alors, vous avez évoqué dans les innovations la question de la composition, de la désignation, le mode, mais il y a aussi la question même de fond, c'est la manière même de permettre à l'organe de pouvoir fonctionner. Est-ce qu'il y a-t-il un point clé que vous avez ajouté par rapport au fonctionnement même de l'organe aujourd'hui? Parce que quand vous regardez l'ancienne loi, le vice-président de la CENI, le premier vice-président de la CENI, il vient de la majorité du parti politique, mais quand vous regardez aussi, il a la conservation de beaucoup de pouvoir, plus que deux fois même. Certains acteurs estiment qu'il a beaucoup de pouvoir même que le président de la CENI. Mais est-ce qu'il y a y a-t-il un point sur lequel vous insistez par rapport au fonctionnement, aux tâches même au sein de la CENI réformée?
Bien. Voilà. Pour les organes, j'ai maintenu la plénière, le bureau, et j'ai ajouté, c'est très important, un organe de contrôle et d'évaluation. La commission permanente d'évaluation et de contrôle, la COPEC. À ce niveau des organes, pour rencontrer votre préoccupation, il y a une innovation de taille. Moi, je propose que désormais, tout en étant proposé par la société civile, le président de la CENI soit soumis au consensus de toutes les composantes. Il faudra, à mon avis, que le président, dont le rôle est un rôle clé, il ne sert à rien de lui étendre là-dessus parce que nous vivons ça, que cet homme-là soit l'émanation de tous. Que tout le monde se reconnaisse en lui et que tous ceux qui sont des candidats se disent « Oui, telle personne qui est président de la CENI nous rassure. » Et à ce sujet, la société civile peut même proposer deux candidatures. Il appartiendra au bureau de l'Assemblée nationale. Et c'est ça qui est important. Moi, aux côtés du cardinal Bosengo, dont je me réclame, mais le parrainage, même pour la CEDEAO de la CNS, nous avons fait cet exercice, et je répète tout le temps, que le professeur Bayona, qui est mort, que son âme repose en paix, a été accepté, proposé par la mouvance du président Mobutu, mais accepté par l'opposition. Donc désormais, il faut qu'on étaye ce consensus-là pour que ce personnage sache qu'il y a libération de tout le monde.
Mais à ce niveau, à ce niveau,
oui. Permettez.
Oui, allez-y.
On a parlé de pouvoir. Maintenant, j'ai essayé de rééquilibrer des choses. C'est-à-dire que j'ai renforcé le pouvoir de la plénière qui regroupe tous les membres de la CENI, qui doit jouer un rôle prépondérant au-dessus de laquelle ne peuvent se situer ni le président, ni le vice-président de la CENI. Par exemple, très rapidement, je dis ceci, que la plénière désormais adopte le règlement intérieur, le règlement administratif et financier, le programme d'action, le projet du budget, et surtout, surtout, approuve les plans des opérations électorales et référendaires, ainsi que le calendrier électoral, l'organigramme et le cadre organique, les plans de passation des marchés et les différents appels, ainsi que les emprunts contractés par la CENI, approuve les rapports semestriels, ça c'est classique. C'est la plénière qui reçoit, délibère et décide des résultats provisoires des élections. Et enfin, c'est la plénière qui délibère, sous proposition du bureau de la CENI, des engagements, des nominations, des affectations et le cas échéant de la fin de fonction du secrétaire exécutif national, des secrétaires exécutifs provinciaux, des chefs d'antenne et de leurs adjoints, ainsi que des cadres techniques et administratifs de la CENI. Et j'ai même prévu, mes chers amis, des procédures de mise en cause de la responsabilité des membres du bureau, dans le sens que tout acte des membres du bureau, ou même du bureau pris collectivement, qui serait un acte qui viole la loi électorale, la Constitution, la loi organisant la CENI, eh bien, cet acte-là peut être, si vous voulez, peut donner lieu à la défiance du membre concerné. Donc, j'évite d'arriver à des situations où on vous dit « Béni, Yubi, Boutembo, pas d'élection et puis on va se faire couvrir à la Cour constitutionnelle » où on vous dit « machine à voter, oui ou non ». Non. Les membres du bureau, je précise, et l'ensemble de la CENI sont soumis à l'autorité de la loi. C'est comme les magistrats. Ils ne peuvent pas aller au-delà de ce que prévoit la loi. Et la commission permanente d'évaluation de contrôle, c'est un organe clé. Okay. Désormais, le contrôle doit être systématique, tant sur la gestion des ressources humaines et financières, que sur la gestion des opérations électorales. Merci. Et la COPEP a même le pouvoir de saisir le Conseil d'État, le gouvernement ou l'Assemblée nationale en cas de faute commise dans l'exercice de la fonction et de la mission de la CENI. Voilà.
Très bien. On va revenir à vous pour chuter et conclure cette émission. Le temps d'écouter encore quelques compatriotes qui voudraient bien s'exprimer là-dessus. Jacques est à Kisangani. Jacques, merci de nous avoir rejoints dans ces débats. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute, Jacques.
De l'émission Parole aux auditeurs. C'est Jacques Motanga Kamonde de toute la ville de Kisangani.
Oui.
Comme je l'ai écrit dans votre page Facebook de la Parole aux auditeurs, que l'élection de 2023 posera un sérieux problème, un très grand problème, dans la mesure où le pouvoir, en fait, ne sera pas cédé en facilité. Et l'opposition, là vous voyez le mouvement qui se passe actuellement en RDC, l'opposition attaque, et je suis sûr que le président Félix Tshisekedi n'acceptera pas de céder le pouvoir dans la facilité. Et également, il y a l'ancien président M. Joseph Kabila. Là, vous savez très bien que le pouvoir est un secret, hein. Je sais très bien qu'il a dans son chef l'idée de revenir encore au pouvoir. Donc, c'est un désordre qui s'annonce déjà. C'est un très, très, très grand problème qui s'annonce déjà.
Alors pour vous, Jacques, vous estimez qu'il y a tellement beaucoup d'intérêts politiques dans ce débat autour de la réforme que ça sera difficile aujourd'hui que la proposition de loi soit examinée, qu'on passe à la réforme, parce que bon, chaque personne lutte pour la conservation ou le retour au pouvoir. Mais parce qu'on doit vraiment terminer, Blaise, vous êtes à Boutembo, merci de nous avoir rejoint. Le débat autour de réforme, n'est-ce pas, de la CENI. Alors, quel est votre point de vue pour permettre à notre invité de pouvoir conclure ce débat, Blaise? Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour aux auditeurs de Radio Okapi et Radio de la Paix. Et en quittant l'égoïsme politique, les réformes réclamées par l'opposition parlementaire sont bel et bien légitimes et fondamentales, et dès l'enseigne qu'en 2023, nous voulons vraiment des élections crédibles et transparentes, et en nous référant toujours la loi numéro 6/006 du 9 mars 2002 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Nous voyons que l'indépendance vraiment de la CENI a le pouvoir vraiment qui est indépendant. Donc, dans ces actions, la CENI demeure toujours indépendante, monsieur le journaliste. Et sinon, nous déplorons que nous voulons vraiment des réformes, et non des réformes à réformes, mais des réformes de bonne qualité qui vont permettre de donner confiance aux paisibles citoyens. Sinon, toutes les actions seront foulées aux pieds par les peuples congolais qui
Merci beaucoup, Blaise. Vous êtes revenu sur la question de l'indépendance de la CENI. Tout le monde veut que cette CENI soit vraiment indépendante. Alors, on revient à vous, Monsieur Christophe Lutundula, député national. On a suivi les uns et les autres. On doit chuter peut-être dans deux minutes pour conclure cet échange. Et il y a même notre ami Jacques Tekisangani qui dit « Le combat est tellement rude sur la question de l'intérêt politique que pour lui, ça sera vraiment difficile que les gens acceptent cette réforme. » Est-ce que vous avez cette impression?
Non, moi je pense, je sais qu'à l'Assemblée, ça ne sera pas facile parce qu'il y a la majorité qui n'en veut pas. Mais il n'y a pas d'arme plus puissante, il n'y a pas d'armée plus forte et plus puissante que le peuple. C'est au Congolais de s'assumer. Je voudrais brièvement dire que pour la composition du bureau, je préconise une représentation paritaire hommes et femmes et une répartition égalitaire de postes, particulièrement le président proposé par la société civile, le questeur proposé par la société civile, le vice-président par la majorité, le rapporteur titulaire par l'opposition, le rapporteur adjoint par la majorité et le questeur adjoint par la majorité. Et pour terminer, il était nécessaire de souligner au plan de contrôle, au plan du contrôle externe, d'abord, pour les financements, je propose que les activités de la CENI, comme le procès électoral, soient financées par des ressources spécifiques dans le cadre d'un fonds spécial des élections à créer par un décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres. Je propose aussi qu'en matière de marché public, les marchés contractés par la CENI soient conclus conformément à la loi sur les marchés publics et que l'Assemblée plénière en approuve les plans de passation et des appels d'offres. Et enfin, je propose que le bureau de l'Assemblée publie trimestriellement les états financiers de la plénière, le bureau de la CENI, je veux dire.
Merci.
Je propose que le bureau de la CENI publie trimestriellement les états financiers. Pour le reste, à chacun de prendre ses responsabilités.
Merci.
Moi,
beaucoup.
Les miennes, il appartient à l'histoire de me juger.
Merci beaucoup, Monsieur Christophe Lutundula, député national. Merci pour nous avoir accordé de votre temps pour discuter avec les auditeurs autour de cette question de réforme de la CENI. Merci aux auditeurs. Vous avez été nombreux à commenter les sujets, les débats. C'est poursuivi sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Merci à Polydor Basunga qui était à la mise en onde de cette émission réalisée par Jeannot Matouaki. On se retrouve demain pour un autre numéro des Paroles aux auditeurs. Merci et au revoir.